On va enchaîner avec une communication de Cassandre Dibou, étudiante à l'université de Rennes 2. Voilà. Roison City is not dead, point d'interrogation. Bah, écoute, on te laisse la parole.
Donc bonjour à toutes et à tous. Voilà, bon, je m'appelle Cassandre, je suis étudiante à l'université de Rennes 2 et j'effectue mon master sur les relations musico-littéraires dans les musiques extrêmes, donc sous la direction de Monsieur Timothée Picard, et je pensais aussi à Monsieur Emmanuel Parent pour ma soutenance. Voilà. Entre autres. Donc je remercie Solveig et Luc pour m'avoir invité, ainsi que vous, le public, d'être ici présent. Donc l'objet de ma présentation sera surtout l'underground, voilà, puisque moi je suis toute jeune et je fréquente le milieu donc hard rock, heavy metal, underground, depuis que je suis venue sur Rennes commencer mes études. Et donc c'est donc d'une manière indirecte que je vous parlerai du punk, voilà, puisque je ne suis pas spécialiste du punk, puis je suis plus dans le milieu heavy metal. Bon, voilà. Donc Roison. C'est le nom breton, Roison, hein, c'est le nom breton pour désigner la ville de Rennes, et nombre d'adeptes de l'underground emploient ce terme pour la qualifier. Et c'est aussi le nom d'une association musicale rennaise, Roison Underground, dont je parlerai tout à l'heure. Sans pour autant m'inscrire dans un régionalisme militant, il me semble quand même inévitable d'aborder dans ma présentation les rapports qu'entretient l'underground avec la Bretagne. Voici donc mon plan. Alors j'essaierai, comme je pourrais, de définir l'underground. Et dans une deuxième partie, nous essaierons de faire un état des lieux des acteurs et des lieux donc de l'underground à Rennes, grâce notamment à une interview donnée par Olivier, qui est donc membre de l'association Roison Underground et fondateur du label rennais indépendant Impious Desecration Records. Voilà. Alors, hop. Les auteurs Éric Dehay et Dominique Grimaud, dans leur ouvrage « L'underground musical en France », reprennent la définition d'Alain Rey dans leur avant-propos. Par underground, nous entendons des mouvements artistiques expérimentaux, semi-clandestins, indépendants des courants culturels dominants et en marge de circuits traditionnels de diffusion commerciale. Cette définition donc ancre d'emblée l'underground dans des considérations à la fois esthétiques, politiques, mais aussi commerciales. Alors, quelles sont donc les caractéristiques esthétiques de l'underground ? À l'origine, l'underground en France serait lié à un contexte historique et social précis. Au début des années 70, face à la chape de plomb des musiques hippie, de la variété et des groupes anglo-saxons, va se développer une contre-culture, l'autre nom donné à l'underground. Ce mouvement va consister en la création de courants alternatifs et indépendants. Et l'underground est donc un élan artistique qui se développe en réaction à une tendance mainstream que l'on peut définir comme courant principal. Voilà, le mainstream, en gros, c'est ce que l'on trouve partout et qui est accessible par tous. Voilà. Au contraire, l'underground apparaît seulement aux yeux de ceux qui savent le chercher. C'est ainsi que certains genres musicaux sont apparentés à l'underground, tels que le métal, bon, pour certains le rap aussi, l'électro, bon, après ça pourrait être sujet à débat, je vous laisserai y répondre. Voilà. Donc, quelles sont maintenant les caractéristiques politiques de l'underground, pour faire très rapide? Donc l'underground peut être qualifié de clandestin ou de contre-culture, dans ce sens qu'il se soustrait au code inhérent à la société. C'est un choix de liberté et d'indépendance, une volonté d'être en dehors des clous, tout simplement. Et c'est un mouvement qui peut aussi volontairement se marginaliser. C'est proprement ce désir d'échapper au contrôle qui pousse de réels passionnés à résister à la culture de masse imposée. L'underground est donc logiquement associé au mouvement de rébellion. Et à l'origine, le terme même d'underground représentait l'organisation de résistance de la Seconde Guerre mondiale. Donc, d'un point de vue culturel, l'underground peut aussi être cette défense de la langue française ou de la langue régionale, par exemple, face aux groupes anglo-saxons qui restent majoritaires aujourd'hui. Quelles sont les caractéristiques économiques ou commerciales de l'underground ? Économiquement, l'underground se définit par sa volonté d'autogestion et d'autonomie commerciale. Ce mouvement ne veut rendre de compte à personne, et pour cela, l'underground tend à se confondre avec la définition du do-it-yourself ou faites-le vous-même. Voilà. Donc c'est la technique de bricolage ou de débrouillardise. En France, par exemple, on a eu l'évolution des instruments du matériel d'enregistrement musical, et ça a permis notamment l'autoproduction. Comme le dit Olivier d'Impious Desecration Records, la même personne peut à la fois être en charge donc, des comptes, du catering, de la distribution de flyers, de la sono. Donc voilà, c'est souvent les membres de l'association qui partagent les tâches. Et par contre, c'est vrai que la plupart du temps, il s'agit d'un esprit amical plus que commercial, voilà, qui sont réunis là pour leur amour de la musique. Nous constatons donc que l'underground, à l'instar du rock, a bel et bien partagé avec l'économie, même si nous le verrons par la suite, il ne s'agit pas de sa motivation première. Là, c'est une autre remarque que j'aimerais faire, mais qui est toute personnelle et qui pourrait aussi être sujette à débat, c'est que j'ai constaté que l'underground semblait être un phénomène essentiellement urbain. Par conséquent, il ne peut se développer que dans les grandes villes, parce que en fait, la ville propose un choix diversifié de cultures et surtout de contre-cultures qui ne peuvent croître qu'en nombre limité dans les petites bourgades. Voilà, par exemple, dans le quartier de Rennes-Centre, qui comprend plus de 21 000 habitants en 2010, ça fournit vraiment un terreau propice à l'underground. Voilà, donc je vais passer un grand 2. Nous allons passer un rapide état des lieux de l'underground à Rennes. Donc là, j'ai fait une petite carte. Bon, il n'y a pas tous les lieux hein, dessus, hein, vous m'excuserez. Quels sont les lieux de l'underground musical à Rennes ? Les lieux de l'underground sont variés à Rennes. Parmi eux, je citerai donc les salles de concert, les bars, les disquaires, les foires au vinyle et au disque, et enfin le web. Voilà. Donc, comme on peut le voir sur cette carte, les bars à concert se situent principalement donc dans le cœur de la ville de Rennes. Donc, on a parlé de la rue Saint-Michel, enfin, c'est-à-dire la rue de la Soif, hein, pour ceux qui connaissent, le centre en gros. Voilà. Et alors que les salles de concert, quant à elles, j'en parlerai aussi, se situent plutôt en périphérie. Donc on a le Mondo Bizarro et aussi donc le Jardin Moderne. Donc on peut le voir, Mondo Bizarro au nord, Jardin Moderne plus par là-bas, vers Clenay. Voilà. Donc, sans doute à cause du bruit qu'elles génèrent. Comme par exemple à Nantes, on a le Hangar à Bananes qui se situe en dehors de la ville parce que voilà, c'est des endroits qui font du bruit et qui dérangent. Et donc c'est vrai qu'auparavant, on avait des lieux de concert qui pouvaient avoir... Enfin, ça se tenait tout simplement dans les squats, alors que maintenant, à Rennes, on a vraiment des lieux dédiés à l'underground. Donc c'est quand même une évolution importante, même si c'est vrai qu'au Mondo Bizarro, on a une capacité maximale de 200 places, il me semble. Bon, je demanderai confirmation à Bruno Perrin. Voilà, 144, merci. Justement, je vais passer à l'exemple du Mondo Bizarro, donc ça tombe bien que Bruno soit là. Il me corrigera, hein, j'espère, si jamais je fais des erreurs. Donc le Mondo Bizarro est situé au nord de Rennes, et pour moi, c'est vraiment l'exemple idéal de la salle de concert dédiée à l'underground. Donc fondée en 2002 par Bruno Perrin, ancien bassiste du groupe des Gunners. Alors que la vitalité musicale de la ville rock s'essouffle, là je le cite hein, dans une interview accordée, donc une interview de Vox Pop en 2009. Donc alors que la vitalité musicale de la ville rock s'essouffle, les Tontons Flingueurs, un bar en lisière du centre-ville qui mettait gratuitement à disposition sa salle de concert aux assos et aux groupes, ferme en 98. Voilà, donc face à des bars à concert qui ferment, donc Bruno a proposé une alternative très intéressante, finalement. Et c'est vrai que si à l'origine, le Mondo Bizarro programmait principalement beaucoup de rock'n'roll, du punk, maintenant, qui n'avait pas de place pour s'exprimer, tout simplement, aujourd'hui, ce sont les associations locales qui organisent les concerts. Et donc le Mondo offre vraiment l'avantage d'avoir sur place une sonorisation déjà avec les retours. Donc pour les groupes, c'est un avantage considérable, ils n'ont presque pas besoin d'amener leur matériel. Et en plus, le son est vraiment excellent puisque c'est Bruno qui s'en occupe. Donc à chaque fois, on a un son génial, vraiment. Voilà. Donc après, c'est vrai que comme c'est situé en périphérie, voilà, les programmations doivent être vraiment percutantes pour que les personnes se déplacent, parce qu'il faut quand même faire le trajet, même si on a des bus à Rennes. Voilà, il faut les motiver. La scène est vraiment petite, c'est vrai qu'elle est très intimiste, je crois qu'elle fait 4,20 m par 3 m ou quelque chose comme ça. Donc elle est toute petite, c'est vrai que les très grands se prennent presque la poutre, mais bon, voilà. Mais l'ambiance est géniale, et puis c'est vrai qu'elle a accueilli The Seeds, les Lords of the New Church, et aussi un des membres, un des frères des Ramones, je crois, Marquis. Et puis Wayne Kramer, je crois, guitariste des MC5. Ouais. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, bien entendu. Voilà, donc quels sont. Je vais passer au bar maintenant, bar concert de l'Underground. Alors, j'ai pas tout mis, hein, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Alors, on a le Marquis de Sade, voilà, en référence au Marquis de Sade, hein, tenu par Alain et Seb. Le Barrique, le Gasoline, le Tiana, le Sympathique, le bar de l'Aviation. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Par contre, c'est vrai que malheureusement, depuis cette année, on a une nouvelle législation qui impose 102 décibels au lieu de 105 dans des lieux qui diffusent des musiques extrêmes. Et baisser de 3 décibels, c'est donc diviser par 2 le niveau sonore. Et ça pose problème quand on sait que le son d'une batterie, c'est déjà 105 décibels. Voilà. Donc on encourt le risque d'une 2 500 € d'amende et le double en cas de récidive. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les musiques amplifiées. Si on ajoute à cela la fermeture de bars, comme par exemple on avait le Troll Farceur à Rennes, la Bernique Hurlante, le Baroque, je crois aussi, l'Underground est donc malheureusement souvent menacé. Et c'est pour ça qu'on a par exemple le collectif de culture barbare, une fédération de 500 cafés-concerts, cafés-culture et bistrots, qui agit justement pour préserver les quelques 30 000 bistrots en France contre les 200 000 qui couvraient le territoire français dans les années 60, c'est-à-dire 6 fois moins aujourd'hui. Donc c'est assez important. Voilà. Je vais passer aux disquaires maintenant. Les disquaires plaque tournante de l'Underground. Donc, si le web a révolutionné l'industrie musicale, le vinyle se vend toujours aujourd'hui. Voilà. Donc, avec ses quelques disquaires indépendants, Rennes reste quand même le paradis des amateurs de vinyle. Donc, j'ai choisi l'exemple de la boutique de Rocking Bones. Elle est située donc dans le centre de Rennes. Elle est tenue par Sébastien Blanchet. Et pour, en fait, je pense vraiment qu'elle constitue un hub, hein, c'est-à-dire une plaque tournante, de l'Underground. Donc, elle est au fond d'une impasse, à l'aspect qui peut être un peu rebutant pour certains. Donc, c'est vrai que on a la Main Street, donc l'allée principale, et puis là, on voit une petite indication vente de vinyle. Bon, certains peuvent être un peu surpris. Voilà, donc on tombe pas forcément par hasard sur la boutique. Par contre, c'est vrai que on peut y déposer des flyers et puis des affiches et parler de concerts et puis Seb vraiment favorise les contacts humains, les rapports humains. Et c'est aussi le créateur de Beast Records, donc un label rennais indépendant de garage rock. J'aurais pu citer aussi la boutique des Troubadours du Chaos. C'est vrai qu'il est tenu par Laurent et qui est rue de Saint-Malo, je crois, donc pas très loin non plus. Autre vecteur de l'Underground, les foires aux disques et vinyles, qui a lieu tous les ans donc en novembre, place des Lys, mais aussi à Nantes, en Vendée aussi également. Et du coup, c'est vrai que pour trouver des raretés, c'est très intéressant. Par contre, c'est vrai qu'il faut payer l'entrée et puis on peut mettre très très cher dans des vinyles. Voilà. Donc maintenant, je passe rapidement au web. Vecteur de l'Underground, ça c'est une question aussi que je vous pose, vous pouvez y réfléchir. Le web a révolutionné l'Underground car il a profondément modifié l'industrie musicale. Donc c'est à la fois un lieu de diffusion d'événements Underground et aussi un moyen de création de l'Underground. Voilà. C'est vrai que maintenant, il n'y a rien de plus facile pour un groupe de créer sa page Facebook, page Internet, de s'auto-diffuser, voilà. Et Eric Dehaye et Dominique Grimaud, dans leur ouvrage sur l'Underground, expliquent que les techniques d'enregistrement, photocopie deviennent plus abordables et permettent d'éditer des fanzines, de produire des disques, des cassettes, sans faire appel forcément à des maisons de disques. La vente en ligne est aussi un bon moyen pour les labels d'exporter le merchandising des groupes. On a aussi des plateformes comme Spirits of Metal, Metal Archive, qui recensent des groupes de musique underground et qui proposent beaucoup de chroniques, etc. Donc finalement, les vecteurs, c'est vraiment vous, en fait, c'est le public. Et, Et les webzines, en fait, c'est un petit peu la version moderne des fanzines. Tout simplement, on a aussi les web radios qui diffusent beaucoup d'underground. On a l'exemple de Matt Braise aussi, un webzine sur l'actualité des groupes rock, metal, punk, hardcore et autres douceurs, comme ils le disent. Voilà, donc ainsi, l'underground, à l'heure de sa reproductibilité, a-t-il pour autant perdu son aura ? Et nous allons justement voir que certains acteurs de l'underground refusent d'employer uniquement les moyens technologiques et tentent de préserver le plus possible l'esprit old school ou vieille école en français. Alors, qui sont les mécènes de l'underground ? Qui finance ? Qui sont les acteurs de l'underground, tout simplement ? Alors, évidemment, les groupes, hein, c'est évident. Éric Dehay et Dominique Grimaud affirment que, je cite, « Dans les années 70, politiquement combattante, faire de la musique, être musicien, est un mode de vie qui devient, en lui-même, un moyen d'action pour pointer du doigt les travers de la société. » Et la chose n'est pas nouvelle, la musique et le politique forment un très vieux couple. Voilà, ça. Donc à Rennes, on a toujours des groupes tels, on les a cités, les Trotskids, les Gunners, les Mass Murderers, Charlie's Angel aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui choisissent de s'auto-produire, de s'auto-diffuser, et qui recherchent par eux-mêmes les lieux de concert et qui contactent directement les barmanes pour jouer. Et donc du coup, c'est vraiment un circuit court. Mais après, c'est vrai qu'on peut avoir des associations qui les contactent directement et puisqu'ils sont très au courant de la scène locale. Voilà. Donc justement, les associations, alors j'ai choisi Roisen Underground, qui n'est pas forcément spécialisée dans le punk, mais qui organise beaucoup de concerts au Mondo Pizarro. Les associations, juste pour revenir au transmusical, il faudrait que je vérifie le chiffre, mais apparemment, lors de la première édition des trans, en 79, on aurait eu 4 associations qui programmaient des concerts en ville, et aujourd'hui, on en aurait 125 à peu près, donc c'est un nombre à vérifier. Parmi ces associations, on en a qui sont tournées vers l'underground, comme Roisen Underground. Donc c'est une association de loi 1901, voilà, créée en 2010. Et avant sa création officielle, Olivier et Max organisaient déjà des soirées d'écoute vinyle dans les bars. Donc c'est quelque chose qu'on fait régulièrement à Rennes, en fait, tout simplement, on passe nos vinyles. Voilà. Et donc dans cette association, il n'y a pas de place pour les compromis, pas de place pour la complaisance. C'est simplement les coups de cœur qui sont programmés. Voilà. Et c'est vrai que c'était pour programmer des concerts d'une autre échelle, parce qu'on avait Garmon Bozia, par exemple, à Rennes. Sauf que là, Olivier voulait faire quelque chose d'un peu plus de différent, tout simplement. Donc le but, c'est pas de faire venir des gros groupes, des grosses têtes d'affiche, parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens. Donc c'est Olivier qui contacte les tourneurs, et la plupart du temps, il doit refuser des demandes de groupes, et il peut refuser jusqu'à 95% des demandes. Donc voilà, ils ont 8 concerts par an, ça peut sembler peu, mais pour eux c'est très chronophage. Voilà. Donc, par contre, ils font les concerts de façon jusqu'au boutiste. Par exemple, on voit peut-être pas très bien avec la lumière, on a un exemple de Fly, donc c'est vrai que ça ressemble un petit peu au fanzine qu'on a vu. Donc c'est pas une manipulation rapide par Photoshop, non, c'est vraiment des montages, des collages. Donc c'est vraiment la technique du do it yourself, finalement, qui sont réutilisées. Et aussi, ils utilisent que des tickets papier, hein, parce que justement, ça nous fait un souvenir. On aime beaucoup garder ça, les souvenirs des concerts. Donc on l'aura compris, le but de Roisen Underground, c'est donc pas d'avoir du succès, hein, parce que sinon ils se seraient tournés évidemment vers d'autres styles de musique, hein, comme la pop, je ne sais pas. Et la seule chose qui les motive, c'est de faire découvrir des groupes, de faire vivre la passion, et de faire les choses comme ils le font, tout simplement comme ils le veulent. Voilà. Donc les associations programment, en plus des concerts, des festivals. Et j'ai choisi pour vous un exemple de festival que je qualifie d'underground par son choix de programmation, le Samhain Fest. Donc je sais que c'est pas forcément punk. Donc ce festival a lieu à la Mézière, à Rennes, en soutien à l'école d'Iwan, donc de Guy Pell. Et ce festival ne se contente pas simplement de faire venir des groupes anglo-saxons ou autres, justement parce que l'underground, c'est aussi le choix de groupes peuvent chanter en breton, par exemple. Là, on a vraiment la résurgence de notre patrimoine culturel face à tout ce qu'on nous impose actuellement, la société de consommation, etc. Donc c'est, il y a même des cérémonies druidiques qui sont organisées. Voilà, donc c'est pour dire. voilà. Alors, un autre exemple de label, donc là c'est toujours le label d'Olivier, qui s'appelle Impious Desecration Records. Donc c'est fondé en 2008 par Olivier. Donc c'est un label indépendant, rennais. Donc Olivier conçoit son catalogue selon ses goûts personnels. Et c'est vrai que j'ai pris le temps de lui poser la question pour lui de ce que signifiait l'underground, parce que c'est une notion qui est assez difficile à définir. Alors je cite Olivier. Pour moi, ce milieu regroupe des personnes en soif de découverte, qui ne cèdent pas à la facilité, qui sont investies et prêtes à plus de sacrifices pour cette passion du métal que les personnes, souvent de passage, restant cantonnées à la scène mainstream. Ça résonne avec la nature même de ce style. Ce n'est pas seulement la musique, c'est réellement un état d'esprit. Je pense que la personne qui n'accorde pas d'importance à l'extra-musical est simplement quelqu'un qui n'a pas saisi la chose. Fin citation. Donc là, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, que voilà, l'underground, ce n'est pas simplement un mouvement musical. Il s'agit avant tout d'un état d'esprit. Et là, on constate avec évidence que le moteur principal de l'underground, c'est la passion, tout simplement. C'est vraiment, vraiment la passion. Par contre, comment, là, c'est vraiment des questions que je vous pose, je vous invite à réfléchir. Voilà, comment les groupes réussissent-ils à s'autofinancer quand ils ne vivent pas de leur musique? Ou quand ils, voilà, comment les labels, les disquaires et finalement les mécènes de l'underground subsistent-ils dans notre société? Enfin, à notre époque, ça paraît quand même assez incroyable. Comment concilier la liberté d'entreprendre et l'esprit du do it yourself? Ça, c'est des questions. Voilà. Dernier vecteur de l'underground, et non pas des moindres, évidemment, c'est le public. Qu'est-ce que l'underground sans public? Qu'est-ce que le punk, la musique sans public? Et là, c'est vrai que Rennes, avec plus de 60 000 étudiants, c'est la 8e ville étudiante en France. 20% de la population poursuit des études à Rennes. C'est un détail qui a quand même son importance, parce que quand on connaît l'histoire du punk, des musiques extrêmes ou même de l'underground, la rébellion, en fait, elle fait tout simplement partie intégrante de la jeunesse. Féru de découvertes, de sorties, le public rennais est aussi celui qui bouge. Hop, il y a un petit souci, voilà, qui bouge, celui qui se révolte, et voilà, c'est vraiment un public d'insoumis, tout simplement. J'ai choisi d'éviter de parler de politique, mais après, c'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup de liens avec la politique. Bon, voilà. Paradoxalement, si le public est jeune, c'est aussi celui qui a le moins d'argent. Hein, c'est, en général, on s'appelle entre nous les clochards de Rennes. C'est... voilà, on n'a pas d'argent, mais l'argent qu'on a, notre seule paie qu'on a, notre bourse, bref, on la met dans des concerts, on la met dans les vinyles, tout simplement. Et donc le public rennais n'hésite pas à se déplacer en dehors de la scène rennaise underground. On les voit beaucoup à Nantes aussi, dans des festivals, même à Paris ou autre. Mais c'est vrai qu'on peut déplorer un manque financier très important pour les organisateurs. Et là, j'ai une citation d'Éric Déhay et Dominique Grimaud. Il y a comme de l'incompréhension dans l'air récurrente entre des organisateurs qui prennent des risques financiers pour faire jouer des groupes qui leur envoient les tympans dans la stratosphère, et des jeunes voyant rouge dès qu'on leur demande de débourser le moindre centime pour participer à ce décollage de tympans. L'équation comptable ne semble trouver sa solution que dans un monde parallèle. Eh bien oui, un monde qui aurait enfin aboli l'argent. En tout cas, pas dans celui du rock business. Donc, c'est vrai qu'on comprend qu'il est vital pour la survie de l'underground, tout simplement, de se déplacer, et voilà, ou du moins localement, pour faire vivre les concerts. Donc, pour conclure, l'underground, ce n'est donc pas seulement un mouvement musical, et là, je pourrais aussi dire que le punk, c'est pareil, c'est pas seulement un mouvement musical, bien que, voilà, vous faites votre propre avis. Il s'agit avant tout d'un état d'esprit que l'on doit transmettre sous peine de le voir disparaître. L'underground, c'est penser autrement et avoir la possibilité d'agir différemment. Mais nous avons aussi tenté de le montrer, faire vivre l'underground, c'est participer à son économie, se déplacer au concert et acheter, oui, mais en connaissance de cause, évidemment. L'underground, c'est véritablement un bouillon effervescent d'artistes, d'amateurs, et de passionnés, c'est aussi voilà, une communauté. On peut malheureusement craindre aujourd'hui que l'underground finisse par être perçu comme un style, une mode. Et là, je ne citerai pas les grandes chaînes de vêtements qui ont réutilisé l'imagerie punk ou rock ou métal des chaînes de vêtements, voilà, telles que les Ramones. Ceux-là n'ont véritablement rien compris, tout simplement. Et l'underground est une démarche, voilà, tout simplement, un flambeau qu'il faut transmettre au risque qu'il disparaisse ou, pire, soit perverti. Dans notre monde, ce qui n'est pas viable économiquement est voué à mourir. Mais à Rennes, du moins, l'underground n'est pas prêt de disparaître. C'est un petit pan de notre culture qui survit grâce à une grande passion, une force et une débrouillardise. Donc voilà, Roison City n'est pas mort. Roison City is not dead. Et là, je finirai juste sur une très belle citation d'Éric Deshaies et Dominique Grimaud. Il y a la musique qu'on entend et celle qu'on écoute. Celle qui vient à vous au quotidien, qui passe en radio, à la télé et qui fait danser dans les bals, les mariages. Qui sédimente une culture populaire, un inconscient collectif. Il y a celle qu'on écoute pour soi et qu'on partage avec ses copains, toujours meilleure que celle des autres, qui permet de se créer ses propres points de repère culturels, de se définir socialement et que l'on apprécie pour ses qualités esthétiques et parfois subversives. Celle que l'on veut promouvoir parce qu'elle donne un supplément d'âme à sa propre vie. Voilà, donc je vous remercie.